Je vous avoue que je suis très perturbé par rapport à ce sujet, parce que je sens que Dieu veut d'abord que je m'en occupe, moi, d'une manière très profonde. Et je ne vais pas le faire n'importe comment, vous me connaissez, on ne va pas faire du cinéma. Je crois qu'il faut le faire sous le regard de Dieu. Je sais très bien, comme on va le lire, que Dieu a placé des pasteurs, des enseignants, des évangélistes dans les églises. Pourquoi ? Lisons-le. Éphésiens, on va commencer avec ce texte, on va voir à plusieurs reprises ce sujet, peut-être il sera parsemé d'autres études, d'autres exhortations, d'autres évangélisations. Prions pour que ce soit le Saint-Esprit qui conduise les réunions de l'Église, mais surtout que nous ayons sa pensée. Mais c'est un sujet quand même que l'on va développer, je veux vraiment l'apporter d'une manière intelligente, c'est intelligente selon Dieu, pas intellectuellement, vraiment pour que nous comprenions ce qu'est la vie de l'esprit. Beaucoup de gens n'ont pas envie d'aller dans la vie de l'esprit parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était. Pour eux, ça s'arrête au parler en langue et c'est tout. Et justement, c'est souvent des choses qui ont fait du mal à l'église. Et on va travailler. Mais regardez quand même, les gens demandent, est-ce qu'il faut avoir une église? Est-ce qu'on a vraiment besoin de pasteurs? Éphésiens 4, verset 11. On en est là aujourd'hui, vous savez, dans les églises. Déjà, oh, moi, je n'ai pas besoin d'église. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une assemblée. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'esprit de la croix, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous dit ça. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, pour le perfectionnement des saints. Regardez bien, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, on pourrait arrêter toute la prédication là-dessus. Pourquoi Dieu veut-il un pasteur dans une assemblée? Pour vous amener à votre perfectionnement. Est-ce que ça fait partie de vos priorités cette année? Ou est-ce que c'est juste de perdre quelques kilos parce que ces fêtes vous auront enrobé? Le pasteur, il est placé dans une église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, l'édification du corps de Christ. Dans quel but? Jusqu'à ce que nous soyons tous, pas les meilleurs ou l'élite, il n'y en a pas d'ailleurs, les meilleurs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Après, il y a toute la suite sur l'importance de la vie de l'esprit, de se dépouiller, de se revêtir. On va voir plusieurs expressions dans les semaines à venir. Et je voudrais que vous en fassiez un sujet de prière. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit nous amener dans une espèce de légalisme ou d'obligation. C'est quelque chose qui doit amener la vie de l'esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un grain de blé qui meurt. Et s'ils pouvaient choisir, je ne suis pas sûr que les graines de blé choisiraient d'entrer en terre. Ils vont mourir. Mais est-ce que ça vaut la peine qu'un grain de blé meure? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous savez ce qui se produit après? Quand quelques graines de blé meurent dans un champ, vous avez vu ce que ça produit? Si tout à l'heure nous aurons du pain sur la table, c'est grâce à chaque grain de blé dans les champs qui sont morts, là en novembre ou en septembre, quand ils ont été semés. Voilà. Et nous avons un problème, c'est que le diable, il arrive à nous faire croire que si nous donnons toute notre vie à Dieu, nous serons malheureux. Et il fera tout pour que nous gardions hors de terre le grain de blé. Nous allons nous rattacher à cette vie charnelle parce que nous ne voulons pas perdre. Et je voudrais l'expliquer. D'abord, moi, m'en occuper, en faire une affaire personnelle pour que je sois le premier à bénéficier de cette vie de l'esprit, car je ressens bien dans mon cœur qu'il faut que moi, le premier, j'entre dans cette vie de l'esprit abondante. et que je ne me fasse pas piéger par un emploi du temps qui parfois, c'est vrai, est compliqué, mais je veux m'appliquer le premier à rechercher cette vie de l'esprit. Vous savez, croire en Jésus, il y a beaucoup de gens parmi nous, ils croient en Jésus, ils viennent à l'église, mais ça, ça coûte rien du tout. Ça coûte rien de croire en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça coûte de croire en Jésus? D'aller à l'église le dimanche matin, de croire que Jésus, il est bon, surtout pour nous bénir, et qu'il pardonne quand on pêche, ça ne coûte rien du tout. Le suivre, en esprit et en vérité, le suivre dans l'esprit de la croix, c'est une affaire autre, c'est quelque chose de sérieux, ça demande énormément de renoncement. D'ailleurs, Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'ils me suivent. Voilà exactement comment devrait commencer la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle commence avec cette compréhension de la croix. Jésus a commencé son ministère dans l'esprit de la croix. Tout le temps du culte, pendant la louange, j'avais une image. J'avais une image dans mes yeux. Je pensais à Jésus le jour où il a pris le baptême. Jésus a pris le baptême. N'oublions pas, c'est quand même le Fils de Dieu. Le Dieu du ciel et de la terre. Dépouillé de sa gloire, oui. Mais c'est quand même Dieu. Et quand Jean-Baptiste l'a vu arriver, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus aurait pu dire, et tout le monde aurait rien dit. Écoutez, moi, je ne vais pas me baptiser dans cette eau sale, boueuse et trouble. Je suis quand même le Fils de Dieu. Moi, je veux une piscine avec de l'eau propre et cristallisée. Est-ce que le Seigneur aurait pu le demander? Est-ce qu'il aurait pu le demander? Mais oui, mais là, je veux dire, est-ce qu'on l'aurait compris? Voyez, dès le début de son ministère, c'est ça l'esprit de la croix, c'est qu'il s'est identifié aux pécheurs, il a fait comme les pécheurs, il est rentré dans cette eau boueuse, sale, n'oubliez pas d'où il venait. Lui, le Seigneur Jésus, il a accepté l'esprit de la croix, je voudrais vous l'expliquer tout le long de ces études que nous allons faire. Mais cela nécessite, comme on l'a vu il y a 15 jours ou 3 semaines, qu'il y ait une véritable soif. Car je suis bien conscient que parmi nous, il y a des gens qui sont charnels et qui ne sont pas du tout intéressés par l'esprit de la croix, par le sacrifice que le Seigneur nous demande de faire. Je disais hier aux réunions, aux frères, là, quand on étudie la doctrine, que j'ai commencé un livre, je l'ai juste commencé. Et c'est une femme médecin chrétienne qui est partie en Afrique il y a 50 ans, à l'époque dans un pays persécuté. Et cette femme, à la fin de son ministère, elle a écrit Sacrifice vivant, pour expliquer ce qu'elle a vécu. C'est des trucs affreux qu'elle a vécu. Avec, dans l'école où elle était, elle a vu plein de gens se faire torturer, massacrer. Et quand elle a terminé son livre, elle fait la préface. Et elle écrit, je regrette d'avoir écrit Sacrifice vivant comme titre. J'aurais dû donner un autre titre à ce livre, Privilège vivant. Parce que elle a vécu quelque chose de puissant dans cette vie de l'esprit. Et mes frères et sœurs, je suis persuadé que le problème ne vient pas de vous. Et je suis profondément confus de ce que les problèmes dans les églises viennent de la chair. Beaucoup de problèmes. Des gens qui se chipotent là comme tout à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais voir les deux personnes. Mais ça vient de vous. Mais il y a des problèmes. Si l'église ne rentre pas dans la vie de l'esprit, c'est parce que les pasteurs n'y sont pas rentrés. Est-ce que vous me comprenez? Et nous qui voulons voir la gloire de Dieu, je vous entends prier. Nous, je suis avec vous dans vos prières. Qui remplissent les coupes dans le sanctuaire. Je suis avec vous. Et nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir des guérisons, des miracles. Vous en voulez, vous priez pour ça. Mais vous croyez que ça va se passer comme ça, parce qu'on le demande? Ça ne peut se produire que si les chrétiens manifestent la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et la vie de Christ ne peut se manifester que lorsque les chrétiens arrivent à ce perfectionnement des saints. Alors attention, parce qu'on a vite fait de tomber dans le légalisme et de dire voilà, il faut faire comme ça, voilà, j'ai lu un commandement, où il faut que je... Et puis en plus on l'impose aux autres et on devient des hypocrites. Parce qu'en vérité, le légalisme a enseigné l'hypocrisie dans les églises. Parce qu'on ne peut pas faire les choses avec le légalisme. Il faut faire ci, il faut faire ça, et il faut jeûner, et il faut prier. Tout ça, c'est la chair, souvent. Quand ça vient de Dieu, c'est une grâce de le faire. Et je voudrais que vous reteniez que ça parmi toutes les études que l'on va faire, que nous comprenions bien que la vie de l'esprit, c'est une bénédiction. C'est pas des efforts religieux. Oui, je le dis, croire en Christ, ça ne coûte rien. Le suivre, il y a un prix à payer. Et c'est pour ça que l'esprit de la croix est le seul esprit de la victoire. Quand Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Moi, je n'aurais pas écrit ça. J'aurais écrit, la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui doivent être sauvés. Mais nous allons voir au travers de quelques exemples, je n'aurai pas le temps de le faire ce matin, mais vous verrez. Et que c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que je vous le dis, si les églises n'ont pas avancé dans la vie de l'esprit, c'est que nous les pasteurs, à la place d'amener la vie de l'esprit, nous avons amené des activités. Des activités. Mais tout peut être charnel dans une église. La louange peut être charnelle. La musique peut être charnelle. Les activités peuvent être charnelles. On peut faire plein de choses qui sont charnelles. Par contre, si elles sont le résultat de la vie de l'esprit, ça n'a rien à voir. Mais on peut faire plein de choses dans une église parce qu'il faut faire plein de choses, parce que le pasteur, il va nous pousser au boulot, il va faire plein de choses. Mais ça peut être parce que justement, on n'est pas rentré dans la vie de l'esprit, qu'on cherche un autre moyen pour faire l'œuvre de Dieu. Et tout ça, ça ne se fera pas. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Je comprends bien que plusieurs ne comprendront pas. Je le sais. Je le sais, le Seigneur me l'a montré hier soir, que plusieurs ne comprendront pas tout ce que nous allons partager, parce que les personnes qui ne sont pas converties, je parle des chrétiens qui ne sont pas convertis, ne pourront pas comprendre. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle les pasteurs ne vont pas plus loin dans ce sujet, c'est parce que comme nous avons dans les églises des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne vont pas comprendre le message de la croix. Pour les chrétiens, je parle. Oui, le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi Dieu vous a placé un pasteur dans l'église. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté ce matin-là, devant Dieu, oui, ça m'intéresse de connaître davantage le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est votre priorité cette année? Ou est-ce que votre priorité, c'est surtout que ça va être une année très difficile? Ça va être la crise? Ça va être de nous un nouveau président peut-être? Je ne sais rien. Qu'importe. Est-ce que ça va être l'augmentation de votre salaire, que vous ayez du boulot? Écoutez-moi, si vous êtes avec le Seigneur, vous ne manquerez de rien. Voilà. Vous le croyez?
Oui.
Il l'a promis et il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, préoccupons-nous, non pas de ces choses, occupons-nous-en des affaires. Il y a un temps pour tout. Mais nous devrions comprendre que nous devons prier pour les pasteurs, pour que nous soyons soutenus, et j'ai bien apprécié la remarque du plus foncé, pour qu'on puisse vraiment aller plus loin. Aller plus loin pour me soutenir, c'est important. Je le réalise d'autant plus que je ne vais pas vous amener à la connaissance du Fils de Dieu si moi je ne le connais pas. Vous me suivez? Ce n'est pas possible, il faut le comprendre. Alors, le départ de cette vie de victoire, parce qu'il faut commencer par le début. Je suis désolé, mais il faut commencer par le début. Le départ de cette vie de l'esprit commence, vous allez me dire, mais c'est sûr qu'il commence bien bas. Mais ça ne fait rien. Ça commence par la nouvelle naissance. Vous vous rendez compte que dans l'église de Pentecôte, quelle honte, je suis obligé, devant Dieu, c'est pas moi qui décide les prédications, je suis obligé d'enseigner d'abord la nouvelle naissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça c'est un problème. On va lire Jean chapitre 3. Hier on en parlait dans l'étude avec Monsieur Ollet, qu'un des vrais problèmes il est là, et on y revient tout le temps. Tout le temps. Et c'est un drame. C'est un drame. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais été dans une église aux États-Unis, il y a longtemps de ça, il y a 23 ans. Et que dans une église de Pentecôte aux États-Unis, ils ont vérifié il y a 23, 24 ans qu'il n'y avait que 16% de chrétiens nés de nouveau dans les assemblées de Dieu. Et je me disais, mais ça fait pitié. Ils ont vérifié, je ne sais pas comment, mais on peut le vérifier. D'ailleurs, vous allez vérifier si vous êtes nés de nouveau dans quelques minutes. Normalement, si vous écoutez. Jean chapitre 3, vous connaissez, Jésus parle aux docteurs des docteurs, aux pasteurs des pasteurs. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Marcher dans l'esprit, c'est un sujet, mais extraordinaire. Nous pouvons être certains que Dieu va nous aider si nous nous appliquons à ce sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous nous appliquons à ces choses, Dieu va nous aider. Vous le croyez? Dieu va nous aider. Croyez-moi que s'il y a bien quelque chose qui doit plaire à Dieu, c'est que nous cherchions à marcher selon l'esprit, parce que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais si quelqu'un cherche à vouloir marcher par l'esprit, croyez-moi, il commence à plaire à Dieu. Mais mettez-vous à la place d'un pasteur qui est conscient, comme je le suis, de ce que Dieu veut nous amener dans cette vie de l'esprit pour que toutes ses œuvres, les siennes, puissent se faire. Et que non pas ses œuvres soient occultées par les nôtres. Imaginez-vous, je sais que pertinemment, je le sais, d'ailleurs je dois voir quelqu'un prochainement, et devoir lui dire des choses difficiles, c'est malheureux mais il faut le faire. Comment voulez-vous amener la vie de l'esprit si les gens ne sont pas nés de nouveau? Est-ce que c'est possible? Mais bien non, c'est impossible. Et c'est la première chose qu'il faut que nous vérifions chacun. Est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Parce que vous savez, on peut apprendre, on peut faire, avec la chair, on peut faire une pseudo-œuvre de Dieu. On peut baptiser des gens. Est-ce qu'on peut baptiser des gens sans qu'ils soient convertis? Ben oui. Ben il y en a parmi nous. Moi j'en ai honte. Ben il faut le dire. On peut baptiser des gens, on peut apprendre les gens à faire plein de choses. Mais moi, vous me donnez 3 mois, je vous prends un païen et je l'apprends à prêcher. Sérieux, hein? Vous me donnez un païen, un vrai païen, athée, et dans 3 mois, je lui fais faire une super prédication. Et il ne sera pas converti pour autant. Vous allez, mais vous exagérez. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la chair, elle peut s'introduire partout. Partout. Et hier, quelque chose m'a interpellé lorsque M. Olé disait que, à la réforme, les prêtres qui ont eu le courage de dire non, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Les prêtres qui ont installé la réforme, est-ce qu'ils ont bien fait de le faire? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que nous aussi, nous réformions nos voies pour que vraiment ce soit la vie de l'esprit qui jaillisse dans l'Église? Et je vous assure, on ne le regrettera pas. Ça sera une véritable bénédiction. Le seul qui le regretteront, ce sont ceux qui sont charnels, qui ne voudront pas, bien sûr, avancer dans cette vie-là. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il peut prendre le baptême, parce qu'il a fait une expérience, il a été guéri du cancer, il a trouvé un super boulot, merci Seigneur. Alors pour remercier Dieu, il va prendre le baptême. Ça se passe comme ça. On ne prend pas le baptême pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu, on dit merci. Et voilà comment certaines personnes rentrent dans le royaume de Dieu. Alors, ils ne passent pas par la repentance, ils ne passent pas par la conversion, mais on peut leur apprendre une tradition pentecôtiste, comme il y avait la tradition catholique ou évangélique, qu'importe. On peut apprendre la religion. Ça s'apprend, la religion. Il y a des églises où tous les gens qui la composent sont composés de gens religieux. Ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance, mais il y a une moralité. C'est bien la moralité. Est-ce que c'est un chrétien, il doit avoir une bonne moralité? Oui. Mais vous comprenez bien que la vie de l'esprit, ce n'est pas la moralité. Ça fait partie des fruits. Lorsque quelqu'un se convertit, il a une bonne moralité. Il était vulgaire, il ne l'est plus. Il était grossier, il ne l'est plus. Quand quelqu'un justifie sa grossièreté, je me pose des questions sur sa nouvelle naissance. C'est vrai que la religion peut produire une bonne moralité. Mais lorsque Jésus parle des fleuves d'eau vive qui jailliront et qui couleront de nos seins, il fait allusion à la vie de l'esprit. La vie de Christ ne se trouve pas dans la morale chrétienne. Vous m'écoutez, mes frères et sœurs? J'espère que l'Église sera de plus en plus remplie de morale. Mais la bénédiction que le Saint-Esprit veut faire déverser ne se trouve pas dans la morale. La vie de Christ se trouve en Christ et uniquement en lui. Et marcher dans l'esprit veut dire marcher d'une manière pratique avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dirige toute notre vie. C'est le seul moyen de participer à la nature divine. Et le problème, il est que souvent, moi le premier, j'en ai honte, combien de fois même j'ai passé des journées, des semaines dans le jeûne et la prière, et je me rends compte que tout cela ne satisfaisait que la chair. Mes frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas se faire par les propres forces, par notre volonté, par notre intelligence, par nos méthodes. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureux. Parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la victoire. Parce qu'on ne les a pas menés, nous les pasteurs, dans la vie de l'esprit. Lorsque nous avons été convaincus de péché, soyons pratiques, c'est vrai que c'est le départ, j'ai déjà fait plusieurs études, mais c'est bien de revenir à ce point pour aider le maximum de croyants. Lorsque nous avons été convaincus de péché, vous vous en souvenez du jour où vous avez été convaincus de péché? Vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah ben non, moi j'ai jamais été convaincu de péché, moi ». Comment vont-ils faire pour se convertir? Oui, mais on l'entend, ça. Et les gens, ils sont presque fiers de... Enfin bon, c'est pas le sujet. Lorsque nous avons été convaincus de péché, de suite, nous nous sommes reconnus pécheurs. Oui ou non? Vous vous rappelez? Enfin, ceux qui sont nés de nouveau le savent. Lorsque la parole de Dieu nous a été prêchée, surtout la prédication de la croix, nous avons été profondément convaincus dans notre esprit. Ce n'était pas dans notre intelligence. Tiens, c'est un changement de choses. Ah, il y a une nouvelle religion. Non. Quand nous avons été convaincus de péché, nous nous sommes reconnus pécheurs et nous avons eu besoin d'obtenir la justice. C'est pour ça que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De justice pour ceux qui vont se convertir, parce qu'ils vont être justifiés par le sang de Jésus, de jugement pour ceux qui ne vont pas se convertir et qui devront subir le jugement de Dieu. C'est comme ça. Nous avons compris, lorsque nous avons entendu la prédication de la croix, avec le cœur bouleversé, que quelqu'un, un homme, un Dieu-homme, avait payé à notre place. Nous en avons parlé dimanche dernier. Nous avons parlé dimanche dernier que de la crucifixion, que des souffrances du Seigneur Jésus. On n'a même parlé que des souffrances physiques. Mais nous avons compris que quelqu'un avait payé à notre place. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous avez compris que quelqu'un était mort à votre place? Et puis, ce n'était pas un homme de bien, ce n'était pas un grand pasteur qui est mort à notre place, ce n'était pas un grand philosophe. C'est Dieu manifesté en chair. Il a payé à notre place. Et nous avons été bouleversés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé pardon, nous avons pleuré sur notre péché, pleuré avec des larmes physiques ou sans larmes, mais nous avons intérieurement été bouleversés, notre cœur a été touché et nous avons eu besoin d'être purifiés de notre péché. Oui ou non? Voilà. Et ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance ont demandé pardon du bout des lèvres parce que, vous savez, tout le monde sait très bien qu'on a tous fait des bêtises, des âneries, des péchés. Donc, mais ce n'est pas un pardon, c'est un regret. Ouais, je regrette, je n'ai pas été un bon garçon, j'ai été méchant avec ma mère. Bon, mais pardon Seigneur, mais ce n'est pas la repentance, c'est des regrets. Le Seigneur, il ne dit pas regretter le mal, ce n'est pas bien ce que tu as fait, essaie de t'améliorer. Le Seigneur, il dit repentez-vous. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de se repentir. Et seul le sang de Jésus versé sur la croix peut nous purifier de tout péché. Nos œuvres ne nous purifieront jamais. En enfer, il y a avoir des gens qui, toute leur vie, ont fait des œuvres pour essayer de gagner le salut. Ils doivent être dans une douleur incroyable. On leur a fait croire qu'ils pouvaient être sauvés par les œuvres. Les œuvres doivent suivre. Les œuvres, elles sont préparées. Je suis persuadé que nous allons être étonnés si nous rentrons dans la vie de l'Esprit de voir toutes les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. J'en suis convaincu que nous risquons d'être bouleversés, et en bien sûr, par rapport à ce qu'il a préparé. Mais notre esprit était mort, et nous avons reçu la vie de Dieu, nous avons reçu la vie de Christ. Et si vous êtes passé par la repentance et par la conversion, Jésus-Christ habite dans votre esprit. Il y est. Et nous le verrons mardi certainement, nous verrons tout ce qu'il y a en nous. On ne le réalise pas, mais c'est déjà en nous. Même si le Saint-Esprit ne peut pas l'extérioriser à cause du fait que nous marchons d'une manière charnelle, il n'empêche qu'au jour de notre conversion, toutes ces choses ont été en nous. Quand il est dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, vous voyez, toutes ces choses, nous y sommes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes assis dans les lieux célestes que notre esprit règne. Si notre esprit règne, c'est notre âme qui est sur la terre qui règne. Enfin, là, j'expliquerai tout ça en détail la semaine prochaine. Donc, à partir du moment où quelqu'un se repent et se convertit et qu'il accepte Jésus-Christ, une véritable relation avec Dieu peut commencer. Le Saint-Esprit habite dans son esprit. Nous avons une vie nouvelle et cette vie nouvelle doit jaillir. Et c'est là que nous allons comprendre certaines choses. Le drame, justement, c'est ça. C'est que beaucoup de chrétiens, et ça me brise le cœur, mais ce n'est pas votre faute. Enfin, la faute de ceux qui sont concernés. C'est la faute des pasteurs. Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Une jeune fille va accepter de vivre avec un copain inconverti. Le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau va se mettre avec quelqu'un qui est dans les ténèbres? C'est impossible. Moi, écoutez, essayez de me le prouver. C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. On accepte, une jeune fille accepte de se fréquenter un inconverti, mais il se convertira. Moi, je le changerai. On n'arrive même pas à se changer soi-même. Qu'est-ce que vous voulez, changer quelqu'un? Franchement, c'est pas vrai? Vous n'avez pas du mal à vous changer ? Bon. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Et je voudrais vraiment tellement vous l'expliquer, combien c'est extraordinaire. Je crois que Dieu doit se réjouir de ce qu'on veuille avancer dans ce sujet, la vie de l'esprit. Et voilà, le drame est là, mais c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Leur cœur n'a jamais été changé. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'est pas de nouveau ? Et bien, il ne porte pas de fruits. Quand quelqu'un est né de nouveau, de suite, il y a du fruit. Jésus l'a dit. Produisez du fruit digne de la repentance. Vous vous rappelez quand les pharisiens, les sadducéens s'approchaient pour se faire baptiser ? Tout le monde se faisait baptiser. Vive le baptême, tout le monde se fait baptiser. Et puis Jean-Baptiste, qui avait la prédication très fine, va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et c'est par amour qu'il leur a dit ces choses très 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 sévères. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens, à quoi on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau ? Il porte du fruit. Et s'il commet une erreur, une bourde, une gaffe, un péché, il le répare. J'ai dit un mot, on en parlait hier. Oh, ce mot m'a échappé. Je demande pardon d'avoir prononcé ce mot-là. Il y a du fruit. Quelqu'un qui est né de nouveau, il porte du fruit. Et les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont aveugles. Déjà, on va le voir, que même quand on est né de nouveau, on a besoin que Dieu ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, on le verra. Mes frères et sœurs, alors comprenons que les croyants qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont juste accepté Jésus-Christ avec leur tête, ils ne puissent pas comprendre ces choses. D'ailleurs, il le dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, ils font des œuvres. Et c'est vrai qu'on peut faire des œuvres, ça tranquillise la conscience. Ah, je fais des œuvres, donc Seigneur, ça doit te plaire. Vous voyez ? Et ça, il faut faire attention. Quelles sont les œuvres que nous faisons ? Pourquoi les faisons-nous ? Mais ça n'a rien à voir, ces œuvres, avec la vie de l'esprit. Les preuves de la nouvelle naissance dans une église, dans un foyer, dans une maison, elles doivent être manifestées. Une sœur disait dans sa prière, je ne la cite pas, Madame Bourdelle. Elle exprimait sa joie le jour où elle acceptait Jésus-Christ et l'espérance qu'elle a reçue. Vous voulez que je la redise toute votre prière, Madame Bourdelle ? Hein ? Voilà, quelqu'un qui est né de nouveau, il sait qu'il a reçu la vie éternelle. Il sait qu'il a une vie nouvelle en lui. Est-ce que vous le savez ? Que vous avez une vie nouvelle ? Vous le savez, vous ne pouvez pas l'expliquer ou vous savez l'expliquer. C'est pas grave. Une chose est sûre, vous le savez. Quand vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous avez reçu la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu en vous, vous le savez. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous ne le sentez pas, vous le savez. Là, Jean insiste aux chrétiens auxquels il écrit, il dit, vous savez que si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous savez, à plusieurs reprises, il dit, vous savez, parce qu'on est dans un monde de sentimentalité, de sensiblerie, alors il faut sentir, vous le savez, il n'y a rien à sentir. On le sait, l'assurance du salut, nous l'avons. Quand nous sommes nés de nouveau, nous aimons le Seigneur. Nous vraiment nous l'aimons. Vous l'aimez le Seigneur ? Vous l'aimez vraiment ? Vous avez besoin de le lui dire que vous l'aimez ?
Oui.
Appliquons-nous à le lui dire. Dieu attend que nous le lui disions. C'est écrit, exaltez-le, célébrez-le, adorez-le. Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu aime que nous l'adorions. Il doit être adoré. Il ne doit pas être que sollicité pour nos petits bobos. Il doit être approché pour qu'on lui exprime notre adoration. Quelqu'un qui est né de nouveau, il aime la parole. Et il ne la discute pas. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne juge pas la parole. Il laisse la parole de Dieu le juger.
Amen.
Et là, je peux vous dire qu'on est dans le vif du sujet. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est né de nouveau ? C'est la parole de Dieu qui le juge. Il n'aurait pas le toupé, le gars, de juger lui la parole de Dieu. Ouais, ça c'est écrit, mais enfin bon. Voilà à quoi reconnaît quelqu'un qui est très léger avec Dieu. Quelqu'un qui est converti et né de nouveau, il laisse la parole de Dieu faire son travail dans son cœur. Et si vous faites partie de cette catégorie de gens qui jugeaient la parole de Dieu, écoutez, continuez, c'est votre affaire. Mais vous avez là la preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. Que vous ne compreniez pas, moi vous savez, je suis repris en ce moment, je suis en train de vous prêcher, mais je peux vous dire que le Seigneur il s'occupe de moi et je suis profondément repris parce que je me doute, je soupçonne bien que je n'ai pas été assez loin dans cette vie de l'esprit pour la communiquer à l'Église. Mais au point où nous en sommes, avançons tous ensemble et appliquons-nous à faire ces choses. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne pratique pas le péché. Et s'il en commet un, laissez-moi vous dire qu'il est brisé.
Oh, c'est pas grave.
C'est pas grave. Tu sais, j'ai menti l'autre jour.
Oh, c'est pas grave, tu sais.
Mais si, c'est grave. Bien sûr que Dieu pardonne. Bien sûr que Dieu pardonne toujours. Et que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et que Dieu est plein de miséricorde. Mais mes frères et sœurs, chaque péché devrait quand même nous briser. C'est écrit « Heureux, celui qui a le cœur contrit et brisé ». C'est dans cette affaire-là, un chrétien qui paie, un chrétien qui manque le culte, « Oh, c'est pas grave, on ira dimanche prochain ». Moi, je vous dis, ça commence déjà. Ça commence déjà à être un problème. Seigneur, je te demande pardon. Je ne me suis pas levé ce matin. J'ai honte. Ça commence comme ça. Parce que vous savez, on s'habitue petit à petit à négliger certaines choses. Et laissez-moi vous dire que je suis bien placé pour voir autour de moi. Et je souvent dis, même aux stagiaires que j'ai formés, vous savez, c'est des choses que je n'aime pas dire, mais je le dis pour les enseigner. Je dis, tu vois ce frère, dans 6 mois, il aura rétrogradé. Mais comment vous le savez? Il y a des choses, ça se voit. C'est comme ça. Ben, c'est comme une plante, quand elle commence à, vous savez, à devenir un peu jaune, n'importe qui peut dire, cette plante, elle va crever. Ben, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, vous le savez. Eh bien, il y a des propos, il y a des comportements qui montrent que s'il n'y a pas repentance, la personne... Eh bien, elle va rétrograder. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est interpellé par une prédication comme celle-ci, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que c'est profondément sérieux. Il aspire à la perfection. Il veut marcher de progrès en progrès. Bien sûr qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas fait les progrès qu'il aurait pu faire. Mais il est là, il dit, Seigneur, je veux faire des progrès. Un chrétien qui n'est pas né de nouveau, la vie de l'esprit, il ne comprend rien. D'ailleurs, peut-être que certaines ne comprennent pas grand-chose. C'est déjà une indication par rapport à votre vie spirituelle. Écoutez, je m'applique à porter ce sujet d'une manière très simple, à la portée d'un enfant. Donc, si, je vous le dis, à moins que je ne sois vraiment pas dans le coup, mais si vous ne comprenez pas du tout cette prédication, j'ai le regret de vous dire qu'il y a un problème au niveau de votre nouvelle naissance. Je suis désolé, je dois vous le dire. C'est ainsi. Un chrétien qui n'est pas né de nouveau, il ne se soucie pas de la vie de l'esprit. Alors qu'un croyant qui est né de nouveau, il souffre justement de ne pas pouvoir marcher selon l'esprit. Il n'y en a pas parmi vous, vous souffrez de « Oh, je ne suis pas content de moi, je voudrais faire tant de progrès ». Eh bien, on va s'y atteler. Je peux vous dire combien s'atteler, croyez-moi. Et un chrétien qui est né de nouveau, il a le Christ dans lui, il est malheureux parce qu'il y a un blocage en lui. Il voudrait faire certaines choses, il n'y arrive pas, comme Paul. Vous connaissez l'affaire de Paul quand il dit « Mais je n'arrive pas à faire le bien que je voulais ». Après, il va y arriver. Il va pouvoir dire même « Je puis tout par celui » qui me fortifie. Mais on le sait en plus qu'on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un chrétien qui est né de nouveau, il éprouve souvent de la tristesse et du découragement parce qu'il n'a pas avancé dans cette vie. C'est pas vrai? Des fois, on est malheureux parce qu'on est découragé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on passe à côté de quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Parce que vous êtes né de nouveau, mes frères et sœurs, vous avez droit à toutes les promesses de Dieu, à toute l'espérance de Dieu. Vous entendez? L'Église du Seigneur Jésus est héritière, co-héritière avec Christ. Nous sommes des fils, on l'a vu hier, co-héritiers. Nous ne soupçonnons pas combien les greniers de Dieu sont pleins, combien le ruisseau de Dieu est plein. Pour qui? Pour lui? Non, c'est pour nous, mes frères et sœurs. Et nous allons aborder tous ces passages bibliques de Romains. C'est l'épître de Paul aux Romains, il y a des choses compliquées. Eh bien, je vais essayer de vous les expliquer. Mais mes frères et sœurs, comprenons que la vie de l'Esprit, ça va mener des modifications. Ça va mener un côté négatif, à savoir comprendre la mort à soi-même, ce que c'est mourir à soi-même, le vieux moi qu'il faut mettre à la cave et le nouveau moi qu'il faut mettre au deuxième étage pour qu'il règne dans notre vie. Nous allons comprendre ces choses. Mais il est écrit que nous avons le Saint-Esprit pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons rendus semblables au Fils de Dieu. C'est son plan. Dieu nous laisse sur la terre pour que les chrétiens puissent non pas parler de leur dénomination aux pécheurs. Dieu laisse les chrétiens sur la terre pour montrer au monde perdu ce qu'il peut faire avec un chrétien né de nouveau. Est-ce que Dieu peut montrer quelque chose à l'Église au monde aujourd'hui avec des chrétiens nés de nouveau? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ou est-ce qu'on est là pour parler de notre dénomination? Nous, on est pentecôtistes. Et vous? Qu'est-ce que vous êtes, Sophie? Qu'est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes baptiste? Ah, moi j'ai une religion qui est mieux. Je dis, mais ça suffit, ça, franchement. Vous ne croyez pas que c'est ça le débat? C'est ça le débat? Le débat, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, avec joie, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Ce n'est pas le légalisme, ça je veux vous l'expliquer, parce que je pense que si le réveil s'est arrêté il y a bien des années, c'est à cause du légalisme. Et je voudrais, j'emploie un grand mot, mais vous le prouvez. vous le prouvez. Parce que la vie de l'esprit, ça ne peut pas écraser quelqu'un. Ça ne peut pas affliger une église. La vie de l'esprit, ça ne peut que nous épanouir. On ne sera pas des clones du Seigneur Jésus-Christ. On sera tous différents. Il n'est pas dit qu'on sera identique à Jésus. Il dira qu'on sera semblable à Jésus, dans le caractère, voyez, dans les sentiments, dans la façon d'être. Ça, je vous l'expliquerai. Ce sont quelques pistes que je vous lance pour que vous priez pour moi, pour que le Seigneur m'inspire. Mes frères et sœurs, la vérité, on l'a lu tout à l'heure. Vous avez Éphésiens toujours sous vos yeux? Vous avez vu ce qui est écrit? Regardez dans Éphésiens, on n'a pas pris d'autres textes, on va en voir. Croyez-moi, munissez-vous de votre calepin et d'un crayon, parce que je vous donnerai beaucoup de textes bibliques que vous devrez vous-même méditer, parce qu'il faut que vous vous édifiez vous-même aussi. Éphésiens 4, il est dit au verset 15, « Mais, donc après avoir présenté pourquoi Dieu veut des pasteurs, donc pour vous amener dans cette vie de l'esprit, mais, voyez, après, qu'est-ce qui est écrit ?« Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. » Ce n'est pas une question de confesser. Confesser, ça, c'est dire. Dire. La confession, c'est « je dis ». Professer, c'est vivre. Dieu ne nous demande pas de confesser la vérité. Dieu nous demande de la vivre. Et je voudrais vous l'expliquer de la façon la plus concrète qui soit. Celui qui nous a appelés est saint. Et même s'il s'est identifié au pécheur, il a été saint dans toute sa conduite. Et nous également, nous devons marcher dans la sainteté. Le but de Dieu, voilà, une année nouvelle qui commence, nous devrions présenter cette année afin de dire, voilà, je sais Seigneur que c'est le perfectionnement des saints, alors nous allons travailler pour le perfectionnement des saints dans l'Église. Moi, je ne vais pas vous présenter des œuvres sociales. Écoutez, je suis désolé, on va en faire du social, on va envoyer des sous, on va envoyer là des milliers d'euros au Niger. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais mes frères et sœurs, nous allons travailler au perfectionnement des saints avec beaucoup de joie. Vous entendez? Avec beaucoup de joie. Bien sûr que les chrétiens charnels vont accuser de dire que je mets la barre trop haute. Écoutez, mais faites-le. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est mettre la barre trop haute de parler de ces choses? Tant que nous ne voyons pas Dieu manifester sa puissance, moi je crois que tant que nous ne voyons pas Dieu manifester sa puissance, c'est que nous n'avons pas mis la barre assez haute. Et je crois que la barre, ce n'est pas une question de sauter haut, parce que c'est Dieu qui le fera. Ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est que c'est par grâce que tout se fait. Ce n'est pas par l'intelligence et par la force. On va s'atteler et on va y aller. Et le réveil, on va le faire sonner. Non, non, oui, oui, tout ça, on va le voir. Mais mes frères et sœurs, ça sera par grâce. Je voudrais terminer avec une pensée. Vous avez lu l'Épître, oui. Le livre des Éphésiens, d'Ézéchiel. Vous comprenez le livre d'Ézéchiel? Non. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, Dieu parle au pasteur et lui dit, voilà ce que tu vas leur dire. Je vais te donner la prédication que tu vas leur dire. Alors, pour parler d'un coup de fouet, laissez-moi vous dire que c'est un coup de fouet. Vous le lirez dans Ézéchiel chapitre 2, ne le cherchez pas parce que je vois que le retourne. Vous êtes des rebelles. Vous avez abandonné la voie de l'Éternel. Vous vous êtes révoltés contre moi. Vous avez la face impudente et le cœur endurci. Vous êtes des ronces, des épines, des scorpions. Tu leur diras, ce sont des rebelles, va leur dire, tu diras aux méchants, tu mourras. Si tu n'en l'avertis pas, je te redemanderai ton sang. Voilà la prédication qu'Ézéchiel va devoir présenter au peuple. C'est sévère? Oui, c'est sévère. Mais après, c'est pour ça, vous voyez, qu'il faut faire attention avec le légalisme. Après, vous voyez, ça on va le lire, la solution. On la lit pour terminer. On ne fait que réintroduire, en fin de compte, ce matin, on vient de réintroduire le sujet de la vie de l'esprit parce que je crois que le Seigneur m'a poussé d'abord à comprendre la nouvelle naissance. Dans Ézéchiel au chapitre 36, vous allez voir comment Dieu s'y prend. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu est capable de nous reprendre. Dieu est capable de nous reprendre très sévèrement. Vous acceptez que Dieu vous reprenne sévèrement? Bon. Mais regardez, si on en reste qu'aux reproches, ça serait catastrophique et ça ne serait pas sérieux. Mais regardez comment Dieu va faire. Ézéchiel 36, 23. Regardez comment il parle. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez, pratiquiez mes lois, etc. Vous habiterez le pays. Verset 29, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Verset 30, je multiplierai le fruit des arbres. Ouf, c'est Dieu qui va le faire. Dieu doit nous reprendre. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut être sérieux. Si vous n'allez pas bien, ça ne va pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, repentez-vous, convertissez-vous, donnez-lui votre cœur, faites-le. Il y a parmi nous des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Vous avez, si vous avez compris, si vous avez le cœur ouvert, eh bien repentez-vous. Convertissez-vous. Les chrétiens qui étaient frustrés de ne pas avoir cette vie suffisamment de l'esprit dont je fais partie, eh bien mes frères et sœurs, laissons Dieu nous le donner. Parce que c'est Dieu qui le fait. Vous avez vu, je répandrai, je purifierai, je vous donnerai, je mettrai, j'ôterai, je vous habiterai, je multiplierai, je vous délivrerai. Et après il va donner la vision d'Ézéchiel 37, où là il va mettre l'esprit dans le corps de tous ces ossements desséchés et l'armée va se présenter. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu, il est vivant. S'il doit nous reprendre, acceptons-le. Un chrétien né de nouveau, il accepte la sévérité de Dieu. Il y en a qui me diront, oh, monsieur Gau, vous avez été sévère. Bien, comme je viens de le dire, ils ne le diront pas. Mais je sais très bien, écoutez, je ne suis pas sévère. Je crois qu'on veut la pensée de Dieu. On n'est pas accaparé par la sévérité de Dieu ou par la bonté de Dieu. On est accaparé par la pensée du Saint-Esprit. Et si on est sensible, et si vous priez pour moi, parce que ça me demande du temps de présenter ces choses, ça vient pas, il me faut quand même le méditer pour l'expliquer. Même si dans ma tête c'est clair et dans mon cœur c'est clair, je dois m'appliquer à le mettre en page pour vous l'expliquer. Vous comprenez mes frères et sœurs? Et je voudrais vraiment que nous comprenions que la marche par l'esprit, ça se fera par l'esprit. Et le Seigneur, il va nous aider. Oui, Dieu est capable de te dire, t'es un rebelle. Tu as abandonné ma voix, tu es charnel, je ne suis pas content de toi, ça ne me plaît pas, peut-être il le dira avec un autre ton, c'est possible. Mais quelle que soit l'intonation, Dieu vous dira, mais par contre, je vais le faire, je vais t'aider. Tu ne peux pas, tu as essayé, ça fait 15 ans, 20 ans que tu essaies, tu es déçu, tu es frustré, tu es malheureux, tu es prêt à quitter l'assemblée, mais je vais le faire moi. Quel message d'amour. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. C'est lui qui va le faire. Mettons-nous sur le tour de sa parole et laissons les mains du potier toucher notre vase. Il va le faire, c'est lui qui le fera, c'est lui qui le remplira, c'est lui qui fera tout. La seule chose qu'il nous demande, c'est de rester sur le tour de sa parole et de laisser sa parole nous inonder, nous nourrir. Et le travail commence toujours avec la prédication de la croix, avec la parole de Dieu dans notre cœur. C'est pour ça, mes frères et sœurs, prions, terminons ce culte avec cette ferveur, avec cette conviction profonde que Dieu, il va faire son œuvre. Oui, on ne peut rien faire sans Jésus, mais avec lui, on peut faire des exploits, vous le savez. Et nous les ferons par le Saint-Esprit. Recueillons-nous quelques instants. C'est sérieux, l'ennemi essaiera de nous décourager, mais il y en a parmi vous. Vous savez, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a demandé d'entrer dans ce sujet parce que dans l'Église, il y a des gens qui veulent voir l'action du Saint-Esprit. Mais ça se fera, attention, parce que même parmi ces gens, le Seigneur m'a montré que même parmi ces gens qui veulent voir la vie de l'Esprit, certains sont tombés dans le légalisme. Et il faudra que tous, c'est pas parce que nous voulons voir la vie de l'Esprit que tout va bien. Chacun, nous avons des choses à corriger. Alors laissons le Saint-Esprit le faire. Il nous aidera. Il nous aidera. Surtout dans un sujet comme ça, croyez-moi que le premier intéressé, je crois que c'est le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole. Si tu ne nous l'avais pas laissé, nous serions tous perdus. Tous. Mais tu nous as laissé ta parole pour que par ta grâce, oui, et par les ministères, nous puissions travailler au perfectionnement des saints, à la vie de l'Esprit. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes là comme les Hébreux du temps d'Ézéchiel. Nous acceptons les reproches. Seigneur, merci pour tes reproches. Qu'ils viennent de toi, ce sont des vraies bénédictions. Merci pour tes réprimandes. Merci pour la sévérité. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Ça prouve que tu peux encore nous parler. Seigneur, merci pour la façon dont tu veux nous parler. Ce que nous te demandons, Seigneur Jésus, c'est d'ouvrir les yeux de notre cœur. Tu as ouvert l'intelligence des apôtres le jour de la résurrection. Seigneur, ouvre nos yeux sur cet enseignement sur la marche de l'esprit. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas mené l'Église dans cette voie, alors que c'était ta volonté. Seigneur, vraiment, je te demande pardon, du fond du cœur, pour toutes les fois où j'ai certainement été préoccupé par des sermons, plus que par ta présence. Seigneur, nous te demandons ce matin, ensemble, de nous aider, tous. Oui, ouvre les yeux de notre cœur. Nous croyons que tu habites en nous. Prépare nos cœurs pour les réunions de cet après-midi, de mardi soir. Que tout soit fait, Seigneur, avec ton secours. Sans toi, nous n'y arriverons pas, Seigneur. C'est ta grâce qui le fera, je le sais. Tu l'as promis au prophète Ézéchiel. C'est toi qui fais les choses. Et nous nous attendons à toi. Aide-nous, Seigneur, à faire des efforts pour nous approcher de toi. Et que nous ne nous appuyons pas sur ces efforts, mais sur ta grâce. Merci, Jésus. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Amen.